On va ouvrir un moment la parole de Dieu dans la première lettre de Paul à Timothée. Les deux lettres de Paul à Timothée sont remplies de conseils spirituels, mais aussi paternels et puis fraternels également. C'est lié à l'œuvre de Dieu directement. On le trouve dès le début dans le premier chapitre, des recommandations que Paul lui adresse, des exhortations à faire des prières, des supplications, etc. Et puis des mises en garde. Et on arrive au chapitre 6, verset 11. Paul pose un petit peu, c'est pas le décor, il pose un socle qui est une réalité dans nos vies, que l'on peut accorder au féminin, homme de Dieu, femme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu, et on l'accorde au féminin, parce qu'il y a des femmes de Dieu dans la parole de Dieu, femme de Dieu. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et c'est une recommandation solennelle. Et on retrouve dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 22, un petit peu les mêmes choses. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur, qu'une servante du Seigneur ait des querelles. Il, elle, doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Elle doit redresser avec douceur les adversaires, avec l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est solennel. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu. Recherche. La justice. Et on va regarder les points les uns après les autres sans être trop long. Mais recherche la justice. Nous attendons de Dieu qu'il soit juste. Et c'est difficile d'être juste. Parce que pour être juste, il faut tout savoir d'une situation. Dès qu'il vous manque des éléments d'information, alors vous devez vous faire votre opinion à partir de certains éléments, sachant qu'il en manque d'autres. Et on est tenu de croire l'un, de croire l'autre, alors on fait confiance. Hein. Voilà, on fait confiance à la bonne foi de l'un et de l'autre. Nous attendons que Dieu soit juste. Les autres attendent que nous soyons justes à leur égard de la même manière. De la même manière. Il y a, d'une certaine façon, le même niveau d'exigence entre l'attente que nous avons de la justice de Dieu et l'attente que les autres ont de notre propre justice. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, il n'a pas d'autre alternative que d'être quelqu'un de juste. Mais pour être juste, pour être tout le temps juste, il faut être vigilant, hein. Ne serait-ce que pour rester à la vitesse qui est juste, il faut être vraiment vigilant. Parce qu'on se demande si parfois ils ne se sont pas fait un petit malin plaisir, et 30 et 50, et puis 70, et puis ça redescend. Et c'est là où vous vous faites avoir, parce que vous passez à 70 et limité à 30, vous avez un écart énorme qui remet en question votre permis de conduire, alors que vous ne passez pas si vite que ça. Voilà. Et il faut être en permanence juste. Et vous n'avez pas le choix, parce qu'en plus des panneaux, il y a les vélos, il y a les motos, il y a les piétons, il y a les enfants. Et vous avez obligation d'être juste en permanence. La bonne vitesse, la bonne trajectoire, le bon coup de frein. C'est pas évident d'être juste. Et quand vous êtes juste, mais personne ne vous complimente. Vous avez fait ce qu'il faut. Par contre, au moindre écart, là, vous allez avoir droit au compliment. Vous avez freiné trop fort. C'est de l'intérieur de la voiture que vous avez les compliments pour le coup. Mais préviens, ben, j'ai pas eu le temps. Voilà. Être juste, c'est compliqué. Ça nous demande une vigilance de chaque instant. Et nous devrons être vigilants sur nous-mêmes, sur nos paroles, sur nos attitudes, sur notre comportement. Nous devons être vigilants quant à même à nos prières que nous faisons monter vers Dieu. Nous devons être justes en permanence. Voilà. Et dans toute notre vie au quotidien, là, nos journées qui se déroulent les unes après les autres, il faut être juste. Voilà. Et homme de Dieu, tu recherches la justice. Alors, elle est spirituelle, cette justice-là, forcément. Parce qu'il ne peut pas en être autrement d'un chrétien, il faut qu'il soit juste. Déjà devant Dieu pour lui-même, et puis devant ses semblables, et en particulier devant ses frères et sœurs. Nous devons être justes. Et nous avons cette obligation de le devenir. Le moindre écart, on va le payer cash. On va le payer très très cher. Je vous prends un exemple, c'est sûr qu'il est fort, l'écart est énorme. Mais tant que David fait ce qu'il faut, eh bien il est à la tête d'Israël. Il remporte les victoires, c'est un combat permanent, c'est sûr, mais la bénédiction lui est accordée. Quand il va commettre l'erreur avec Bathsheba, son injustice va devenir hurlante. Alors que si on veut être d'une certaine manière honnête, il y en a combien qui ont fait ça dans le monde ? Depuis toujours, mais pas le serviteur de Dieu. Ce n'est pas que les autres le fassent, on va l'accepter, on ne l'accepte pas. De l'adultère, on ne l'accepte pas. Fomenter un meurtre, on ne l'accepte pas. Mais on l'accepte encore moins de la part d'un serviteur de Dieu. Voilà. Et nous avons cette contrainte-là d'être juste. Jésus était juste dans toutes les situations, avec ceux qui étaient les inconvertis de l'époque. Il était juste avec les religieux. Il était juste avec les disciples. Il était juste avec ceux qui s'approchaient de lui, quelle que soit leur origine. Voilà. Et nous devons rechercher cette justice. Or, pour être juste, on n'est pas juste avec sa propre appréciation. On est juste parce qu'on est calé sur la réglementation qui s'applique. Le code de la route, ce n'est pas vous qui estimez que à cette vitesse-là, ça va. Non. C'est ce qu'on a décidé, que ce soit discutable ou pas. C'est affiché, c'est comme ça, c'est paramétré, et on va venir vous contrôler par rapport à ça. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Notre justice, elle n'est pas subjective. Ce n'est pas moi qui pense que sur un point ou sur un autre. Non, la Bible dit que. Voilà. Et il nous faut revenir à ces fondements de la parole de Dieu parce que c'est le fondement de la justice. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous devez défendre un dossier envers l'administration, moi, je pense qu'ils n'en ont rien à faire. Mais tel texte dit que, confirmé par telle jurisprudence, ça, c'est autre chose. Et c'est vrai dans tous les domaines de l'administration, du reste. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, nous devons rechercher la justice. Ça veut dire que nous devons rechercher la direction de Dieu dans la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur mentionne pour la vie de ses enfants. Et on ne peut pas faire l'économie de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu. Sans quoi, nous ne pouvons pas devenir justes, sauf à nos propres yeux. Voilà. Et nous allons être justes dans toutes les situations de notre vie, pour le coup. Quand la difficulté nous arrive, nous aurons une pensée juste. Nous aurons une réaction juste. Nous aurons des paroles justes à l'égard de Dieu, à l'égard des autres. Parce que si nous vivons la difficulté, la maladie, l'épreuve avec notre propre point de vue, eh bien, pour la même difficulté, l'un va réagir d'une manière, l'autre va réagir d'une autre. Ce n'est pas juste. Tout le monde doit réagir de la même manière, devant la même difficulté, parce que Dieu est le même, parce que sa fidélité est la même, il ne fait pas de favoritisme, il est près de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, l'un et l'autre ne comprennent pas, mais ils doivent réagir de la même manière. Pour l'un et pour l'autre, c'est difficile, c'est même quasiment insupportable, mais ils réagissent de la même manière. Devant les difficultés que traverse Job, vous enlevez Job et vous mettez quelqu'un d'autre, Comment quelqu'un d'autre pourrait-il, devrait-il réagir? Comme Job. Vous enlevez Job et vous vous mettez vous. Oui, oh là là, en effet. Mais comment pourrions-nous réagir différemment de Job? Ce n'est pas possible. Nous, nous sommes les uns et les autres convaincus que Job a réagi comme il convenait. Il est juste. Et il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Eh bien, c'est comme ça. Ça doit toujours être comme ça. Ça devrait toujours être comme ça. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça que c'est l'objet d'une recherche. Et pas d'une recherche un petit peu légère comme ça. Quand vous êtes en grande difficulté, vous vous mettez à chercher. Quand vous êtes dans un conflit qui vous amène au tribunal, vous allez même prendre les services d'avocats spécialisés qui vont faire quoi ? La recherche de la jurisprudence pour trouver le petit truc qui s'est passé à l'autre bout du pays et qui est écrit quelque part et qui ne s'est pas tellement reproduit que presque tout le monde a oublié, sauf que ça fait jurisprudence. Et ça va vous sauver parce que quelqu'un est allé le rechercher et s'est donné les moyens de le trouver et de le mettre en avant. Après que ce soit discutable, c'est un autre sujet. Mais la justice se recherche, c'est une enquête pour rechercher les faits. Eh bien, pour nous, ça devrait être un petit peu notre enquête à nous. Nous devrions être les Sherlock Holmes de l'Évangile, pour ma propre vie spirituelle. Ah non, non, je ne vais pas me faire prendre comme ça et surprendre si facilement. Recherche la piété. Qui est né pieux ? Pieuse. Qui, dès le départ, est bonne sœur ? Même si à certains enfants, on dit c'est des petits anges, rendez-vous demain. Rendez-vous après-demain pour voir que les petits anges, il y a des choses qui se sont... On ne naît pas pieux. On ne peut que devenir pieux. Et pour certains, c'est un gros travail. Peut-être que pour d'autres, on va quand même le dire de cette manière-là, il y a certaines facilités où il y a une prédisposition à la piété. Mais pour certains, pour la majorité d'entre nous, la piété n'était pas dans notre programme, dans notre parcours de vie, dans nos projets professionnels. Acquérir la piété, aller à l'église tous les dimanches matin, c'était pas dans notre programme. Je vous renvoie à votre vie non chrétienne. Que faisiez-vous le dimanche matin ? Et est-ce qu'à ce moment-là, vous pensiez qu'un jour, il arriverait que tous les dimanches matins, vous vous lèveriez, vous habilleriez en conséquence pour aller à l'église ? Moi, à l'église ? Le dimanche matin ? Non. Aux enterrements, au mariage et au baptême. Et encore. Donc, recherche la piété, cet attachement à Dieu, cet attachement à l'œuvre de Dieu, à tel point qu'aujourd'hui, quel que soit l'objet de notre déplacement, on va rechercher, pour parler d'église, on va rechercher le lieu où se rassemblent les chrétiens. Et on va y aller. Même si c'est dans un pays étranger où on ne comprend rien, on va y aller. Nous, c'était pour le voyage de noces, on est allé dans un pays étranger où on ne comprenait rien. On a cherché une église, on est arrivé, on ne comprenait pas plus. Mais les chrétiens, quelqu'un responsable est venu nous voir. Alors son souci, on ne l'a pas compris tout de suite. Son souci, c'est de savoir si on était baptisé pour pouvoir se lever pendant la Sainte-Cène. Et donc quand on a compris que son souci, c'était ça, alors il a dit oui, ça va, on est baptisé, on est même marié, voyage de noces. Donc, on est apte à prendre le pain et le vin. En même temps, je me suis dit, en guise de bienvenue, c'est... Voilà. Recherche la piété. Ah, ça, c'est quelque chose d'important dans notre vie. La piété, c'est quoi ? C'est ce que nous allons lui donner. C'est la forme que nous allons lui donner. Vous rentrez dans une maison, vous trouvez la Bible sur l'étagère, c'est un signe de croyance. Vous trouvez la Bible ouverte sur la table, c'est un signe de piété. Parce que vous arrivez à l'imprévu et vous réalisez qu'il y a eu quelqu'un qui a lu la parole de Dieu, qui a lu la Bible, et vous le repérez. D'ailleurs, maintenant, quand on rentre dans les maisons, Les chrétiens, ils sont un petit peu pénibles. Ils scrutent les étagères. Parce que la Bible, il n'y en a qu'une, elle est facile à repérer. Tous les livres de tous les auteurs, de tous les écrivains, après, si vous êtes plus ou moins férus en littérature, là, vous allez pouvoir vous aventurer dans des discussions dans lesquelles, quand on n'est pas férus en littérature, il vaut mieux rester un petit peu prudent, sauf quand vous voyez la Bible. C'est votre livre. Je ne connais peut-être pas tous les auteurs par période d'écriture des Français, mais je connais la parole de Dieu. Ah, vous avez la Bible ? Question innocente. Vous ne savez pas comment engager le sujet, la conversation. Ah, vous avez la Bible ? Ben moi aussi. Et puis après, vous verrez la suite. Ah bon ? Vous la lisez ? Ben moi, oui. Oh, ben moi, non. Vous pouvez m'expliquer un peu ce qu'est la Bible ? Oh, pas de problème. Alors, on prend un café, deux cafés, trois cafés. Voilà. Il faut rechercher cela. C'est la piété. Je vais prendre l'exemple de la baignade des retraités. Réussir à finir en disant, vous connaissez mon dernier métier ? Voilà. Mais c'est bien. C'est bien. Quelque chose d'important. Mais ça se reconnaît. Tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil d'une personne qui passe par des moments difficiles, très difficiles, et j'ai eu l'occasion de croiser il y a quelques mois son mari dans un contexte inédit, inattendu. C'est-à-dire qu'on était invité à manger chez eux le midi, et voilà que lui, c'était pas prévu, parce que normalement, il rencontre jamais les pasteurs, il vient manger. Voilà. Et il se trouve que c'est le vice-président du club de foot qui est en Ligue 1. Et le soir, il y a match de foot. Et à la fin du repas, ce qui devait arriver arriva. On vous invite à la tribune présidentielle voir le match de foot. Jamais été dans des tribunes présidentielles voir un match de foot, ni même voir un match de foot tout court. Sauf de temps en temps à la télévision. Mais alors, une invitation comme celle-là, si vous la refusez, vous commettez un impair. Moi, je l'ai senti comme ça. Alors, pour ne pas commettre d'impair, il n'y avait pas d'autre base que ça, il dit oui. Voilà. Et ça a permis d'établir le contact, de parler de choses qui les surprenaient, à tel point que même tous ceux qui étaient là, du coup, on a été présentés, parce qu'on était deux collègues, on a été présentés comme deux pasteurs. Ah, ça fait retourner tout le monde. Pendant un moment, ils n'ont plus regardé le ballon. Voilà. Et comme à la fin, ils étaient relégables à ce moment-là, ils ont gagné 2-0, ils nous ont tous dit en chœur, la prochaine fois, vous venez à 4. Sérieusement. Et depuis, ça s'est dégradé. Ouais. Mais c'est pour dire que le contact a été établi de manière tout à fait inattendue. On n'a pas cherché à cacher qui on était, même sans appuyer plus que cela dessus. Et aujourd'hui, vu la situation qui est traversée par certaines personnes, eh bien, j'ai dit, vous pouvez leur dire que, sans aucun problème, s'ils le veulent, on peut se rencontrer, je me rendrai tout à fait disponible. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on n'a pas caché, sans pour autant le mettre en avant, parce que le contexte n'était pas pour se mettre en avant, on n'a pas caché ce qu'on était, ce que l'on croyait. Quitte à avoir une réaction ou une autre. Pour le coup, il y a beaucoup de respect, mais on aurait pu avoir des colibés aussi. Hein. Voilà. Donc, recherche la piété. Et ça, c'est quelque chose qui va se construire au quotidien, là où nous sommes. Nous allons, au bout d'un moment, être reconnus comme quelqu'un qui est pieux. Et la piété, c'est quelque chose qui doit revêtir de la dignité. Ce n'est pas de la piété de bas étage, voilà. de la religiosité. Parce que parfois, on se trompe et on montre plutôt de la religiosité. Et moi, je vais à l'église, et moi, je prie, etc. Non, non, la piété, moi, je crois en Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Et quand la conversation le permet, j'en parle. Je le cache pas. C'est de la piété, c'est pas de la religiosité. Recherche la foi. Ça, c'est quelque chose d'important. Notre confiance en Dieu, c'est pas un mot. C'est une réalité quotidienne qui doit être, comme on dit aujourd'hui, transverse dans notre vie. Voilà. La foi, tous les jours, du matin jusqu'au soir, nous avons confiance en Dieu, quelles que soient les situations que nous sommes amenés à traverser, les personnes qu'on est amenés à rencontrer. Moi, j'ai confiance en Dieu. Voilà. Et nous ne devons pas défaillir quant à la foi. Mais la foi, c'est pareil. C'est pas inné. Elle vient. Ou elle ne vient pas. De ce qu'on entend de la parole de Christ, ou de ce qu'on refuse d'entendre, pour ceux qui le refuseraient. Recherche l'amour. Contrairement à toutes les chansons, parce qu'alors là, des chansons sur l'amour, je me demande comment ils arrivent encore à en inventer. Tellement il y en a qui sont sortis. Et pour autant, Dieu dit, recherche l'amour. L'amour qui est selon Dieu. Parce que parfois on manifeste l'amour qui est simplement humain, qui est affectif, qui est émotionnel. Mais l'amour qui est selon Dieu, c'est un amour qui est constant, qui traverse toutes les difficultés. C'est un amour qui fait que lui, il est fidèle. Quand nous sommes infidèles, il est amour. Et recherche cet amour-là envers tout le monde. Et soit une référence dans l'amour, soit un repère dans l'amour. Le père du fils prodigue, il manifeste de l'amour. Il n'écrit pas des poèmes à son fils, il ne lui a pas fait un long discours quand le fils est parti, parce que c'est plutôt le fils qui a fait en sorte que le père, oh, il a été coupé à la base, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et au revoir. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il n'a pas répondu avec les mots, peut-être qu'il ne le pouvait pas, mais il a répondu avec amour. Il a donné. Il a fait. Et tous les jours, il a attendu. Mais il ne savait pas quand reviendrait le fils. Mais quand le fils est revenu, il a vu son père. En fait, c'est l'inverse. C'est le père qui a vu le fils de loin. Recherche l'amour dans la famille, avec les enfants, avec les frères et sœurs. Recherche l'amour. Si nous ne le recherchons pas, vous inquiétez pas, il ne va pas pousser tout seul. Parce qu'il fait partie des graines de qualité. Or, ceux qui poussent tout seuls, ce sont les mauvaises graines. À cause d'un monde déchu. Ce sont les mauvaises graines qui poussent. L'amour, pour faire pousser l'amour, il va falloir mettre de l'huile de coude. Il va falloir préparer le terrain. Pour faire pousser une belle plante, c'est comme ça qu'il faut faire. Et plus elle est délicate, plus c'est complexe. Et la terre, et l'eau, et la luminosité, et le vent, tout, tout. Et le moindre écart fait que, ah ben ouais, ça n'a pas poussé à cause de ça. Oh, pourtant, j'ai fait tout le reste, oui, mais il manquait ça. L'amour, c'est pareil, c'est le nec plus ultra. C'est la plante par excellence. Si nous voulons qu'elle pousse, alors va falloir travailler notre cœur. Parce qu'en fait, elle ne va pas pousser dans le cœur des autres. Elle va pousser dans notre cœur. Et peut-être qu'ensuite, elle arrivera à pousser dans le cœur des autres. Mais c'est une plante particulière, l'amour. Alors recherche l'amour. Sinon, tu ne le trouveras pas, tu ne le rencontreras pas et malheureusement, tu ne le vivras pas. Recherche la patience. C'est pareil. Qui d'entre nous est né et on l'a appelé patience? Là, je vous vois mieux comme ça. Que patience au milieu de nous se dénonce. Marie-Paul? Hein, jusqu'à quel point? Ah! Ah! Voilà. Tu connais l'histoire. Qui est parfait au milieu de nous? Et un homme devant s'est levé, je suis parfait. Et au fond, on a entendu, je suis là. Wop! Il s'est rassis. Voilà. Donc, la patience, c'est Abraham avec Agar. Là, vous avez, comme on pourrait dire, the patience. Ils sont pas jeunes, ils sont avancés en âge. Voilà que Dieu leur fait des promesses et qu'en plus, elles n'arrivent pas tout de suite. Alors là, qu'est-ce qui nous tient? Le temps qui passe ou ce que Dieu a dit? Si vous dépendez du temps qui passe, vous êtes cuit. Parce que le temps aura raison de vous. Le temps a toujours raison de nous. On n'a pas la capacité de faire face au temps qui passe. Il nous met à mal tous, les uns et les autres. Qu'est-ce qui va nous permettre de tenir? C'est ce que Dieu a dit. Et le temps qui passe, vous fermez l'œil pour ne pas le voir passer. Et sinon, vous fermez les deux yeux. Et vous restez sur ce que Dieu a dit. Et le temps qui passe, laissez-le passer. C'est Dieu qui l'a entre ses mains. Il a les temps et les circonstances entre ses mains. Et Dieu va les bénir. Et recherchez, on va terminer, la douceur. Alors que douceur au milieu de nous se dénonce. Voilà. La douceur. Ça a l'air de rien, tout ça. Mais les uns et les autres, nous progressons un peu dans la justice, un peu plus dans la piété, un peu plus dans la foi, un peu plus dans l'amour, un peu plus dans la patience, un peu plus dans la douceur. Vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat, les changements qu'il va y avoir autour de nous, parce que nous allons devenir des instruments de grande, de très, très grande bénédiction autour de nous. Que son nom soit béni. Amen. Amen.